Une semaine en France avec à nos côtés ce soir un quadruple médaillé paralympique. L'ex numéro 1 mondial du tennis fauteuil, Mickaël Jeremias, médaillé à Athènes, à Pékin, à Londres. Avec lui, on fera un premier bilan des Jeux de Tokyo qui s'achèvent dans 2 jours. Pour cela, nous serons également en ligne avec notre envoyé spécial Guillaume Battin et avec notre porte-drapeau, la judokate Sandrine Martinet, de retour à Paris avec une nouvelle médaille. Cette émission sera également l'occasion d'évoquer Paris 2024. Mickaël Jeremias, qui travaille, n'avait pas hésité à pousser Emmanuel Macron dans un fauteuil, une raquette à la main pour la promotion de l'événement. Il faut dire que pour lui, le parasport est un formidable outil d'inclusion. D'ailleurs, les performances techniques réalisées pour les Jeux servent également au grand public. C'est le cas des prothèses.
Les sportifs nous demandent de réaliser des appareils beaucoup plus optimisés pour lesquels on doit développer de nouvelles techniques. Et le développement de ces nouvelles techniques nous permettent par la suite de réaliser des appareils plus performants pour le commun des mortels.
Faire du sport un outil d'inclusion dans un pays où le handicap continue de faire peur, on tentera d'ailleurs de comprendre pourquoi. Avec celui qui a perdu l'usage de ses jambes dans un accident de ski à 18 ans. On reviendra sur son parcours, sur ses multiples activités et sur l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis. À 19h, le journal d'Hélène Philly, à 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, alors que la situation s'améliore globalement sur le fond de la pandémie de Covid, on s'arrêtera sur le cas des Antilles avec cette question, pourquoi un tel désastre? On sera avec des soignants ici et là-bas, avec un sociologue martiniquais également. Alors, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes. Merci à Irène Menahem à la préparation de cette émission, à Juliette Gou à la réalisation, ainsi qu'à Michel Bézikian, Florent Layani et Victor Ouvrard qui sont à la technique.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Mickaël Jeremias.
Bonsoir Claire.
Bienvenue sur France Inter. Merci. Vous êtes l'un de nos plus grands champions de tennis fauteuil, ancien numéro 1 mondial, vainqueur de plusieurs tournois du Grand Chelem, multimédaillé lors des Jeux Paralympiques, Athènes, Pékin, Londres. Vous avez été porte-drapeau à Rio également. Et maintenant, vous préparez Paris 2024. On va parler de tout ça jusqu'à 19h. Mais d'abord, évidemment, les Jeux de Tokyo que vous suivez activement avec vos yeux d'expert. Un premier commentaire sur ces Jeux qui ne sont pas encore finis.
Non, ils ne sont pas encore finis, effectivement. On peut aller chercher encore quelques médailles. Les Jeux de Rio, c'était 28 médailles. Là, on est déjà à 51 médailles à Tokyo. On a eu encore 3 belles médailles d'or hier, vous le disiez dans votre journal. Aujourd'hui.
Oui, oui.
Et l'objectif était de 35 médailles. Donc, c'est une vraie réussite déjà. Et on a commencé à les accueillir, à les recevoir. Et maintenant, on va très rapidement se regarder vers Paris 2024, comme vous en avez parlé précédemment.
À quoi doivent servir les Jeux paralympiques, Mickaël Jeremias? C'est la performance sportive, bien sûr. Est-ce que c'est aussi une question de visibilité des personnes handicapées?
Oui, c'est un des enjeux. Alors évidemment, d'abord, on est athlète et quand on participe aux Jeux paralympiques, on veut tout simplement la même reconnaissance que quand on est un athlète olympique. Donc la médiatisation, on en parle souvent, c'est un des enjeux. Être visible, être reconnu pour ce qu'on est, mais aussi parce que nous, on est des grands ambassadeurs, finalement, de la minorité à laquelle on appartient. Aujourd'hui, quand vous êtes une personne handicapée, vous faites partie de la minorité la plus discriminée, selon le rapporteur des droits en France, depuis 3 ans. Un titre dont on se passerait volontiers. Et on sait que les Jeux paralympiques et l'exposition des Jeux paralympiques, c'est une manière à un moment de désacraliser le handicap, d'être un peu des rôles modèles pour des enfants qui sont complètement isolés et qui ne pratiquent pas de sport et qui donc ne peuvent pas créer de lien social avec des enfants qui sont d'ailleurs handicapés ou valides. Donc c'est évidemment ça le plus gros enjeu, ça n'est pas uniquement de valoriser 138 personnes.
Voilà, c'est d'offrir un autre regard sur la différence. Pourquoi est-ce que, à votre avis, Mickaël Jeremias, le handicap est mal vu en France? Pourquoi est-ce que ça symbolise encore la peur de l'autre?
J'ai pas tous les éléments, mais on est encore dans un rapport de très compassionnel avec le handicap. Le handicap, c'est la maladie, c'est l'accident, ce sont des choses qui effraient, mais en même temps, dans toutes les sociétés, personne n'a envie d'être malade, personne n'a envie d'avoir un accident de la vie, personne ne veut mourir, mais la réalité, c'est que ça arrive partout, tout le temps. Et donc, en fait, on se cache. Moi, le constat que je vois, c'est qu'en France, mais pas qu'en France, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, mais on n'arrive pas d'ailleurs pas qu'avec les personnes handicapées, on n'arrive pas avec l'autre. On a du mal, j'ai quand même l'impression, avec l'autre, avec les autres minorités, avec tout ce qui n'est pas traditionnel, ordinaire. Et voilà, et le handicap aujourd'hui, encore dans nos sociétés, fait peur, mais fait peur pour des raisons qui n'ont plus vraiment de sens dans le monde dans lequel on vit. Faire peur parce qu'on se déplace différemment, ou parce qu'on aurait un membre qui nous manque, parce qu'on aurait une capacité auditive ou visuelle un peu moindre. Tout ça, en fait, n'a pas de sens. Ça remonte à bien plus loin. Moi, je vis en Angleterre depuis 3 ans maintenant et je découvre une ville à Londres et un pays où en fait, l'autre a toute sa place. Et pourtant, j'idéalise pas le système anglais ou britannique, pour plein de raisons. Mais sur ça, c'est pas un événement qu'une personne handicapée prenne les transports en commun, que la maîtresse de mon enfant soit voilée et elle ramène à la sortie de la classe. Toutes ces choses-là ne sont pas un événement. Les minorités, les communautés, a priori, je trouve, évoluent mieux ensemble que je le vis depuis 35 ans, 36 ans en France.
Donc il y a encore du boulot ici de ce côté de la Manche. On reviendra sur le cas de Londres parce qu'il paraît que les jeux ont joué un rôle. Vous nous le direz, mais on va d'abord rejoindre à Tokyo celui qui suit pour Radio France les compétitions depuis le début. Bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir à vous deux, Michael et Claire. Bonsoir.
Un immense merci Guillaume d'être en direct. À une heure aussi tardive, hein, une heure du matin passé pour vous. Franchement, merci mille fois. Guillaume, on va parler des performances. Michael Jérémiaz les évoquait, des performances tricolores. Mais avant de rentrer dans le détail de ces jeux avec vous, Guillaume, j'aimerais vous poser peut-être une question plus personnelle. Vous êtes un habitué des stades, des compétitions, mais ce sont vos premiers Jeux paralympiques. Alors j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez vécu cette compétition. Vous m'avez dit en préparant cette émission, je me suis pris une claque.
Ouais, je me suis pris une claque. Alors d'abord, moi j'avais choisi de faire que les Paralympiques cette année. Je devais faire les deux et vu le contexte compliqué de travail ici en raison de la situation sanitaire du Japon, ils sont quand même très à cheval sur les consignes, je me suis dit que je ferais pas les deux. Donc j'ai choisi de faire les Jeux Paralympiques en devinant que j'allais prendre cette claque. Et je l'ai prise avec plaisir. Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Michael. En fait, je ne vois pas de personnes handicapées moi dans ces Jeux Paralympiques. Je vois des athlètes, je vois des sportifs de haut niveau. C'est peut-être ça la plus grosse claque. Je vois des gens qui sont dans la recherche de l'excellence, de la performance, qui se sont entraînés très durement. Ils nous le confient après des places décevantes en natation ou après des médailles. Certains ont les larmes aux yeux, nous racontent les sacrifices qu'ils ont dû faire ces dernières années au détriment de leur famille. Ils sont allés loin parfois de leur ville pour aller s'entraîner parce qu'ils n'ont pas toujours à côté les infrastructures nécessaires pour atteindre le haut niveau du sport paralympique. Voilà, moi ça me réconcilie un petit peu avec le monde du sport qui est abîmé par l'argent, par un sport en particulier. Je vais pas tourner autour du pot, c'est le football qui quand même est un sport très différent des autres. Surtout en cette période de fin de mercato, on a beaucoup parlé de caprices de joueurs, d'intérêts financiers, de rentabilité. Et quand on vient ici à Tokyo, c'était le cas pour les Jeux Olympiques et encore plus pour les Jeux Paralympiques, on voit d'autres valeurs du sport. Moi, c'est les vraies belles valeurs du sport que j'aime. Le sport est un indicateur de ce que nous sommes, nous tous, société française ou société japonaise, de ce qu'on est aussi individuellement. Et la manière dont se comportent les sportifs sur un terrain, c'est aussi révélateur de ce qu'est un pays et de comment il se révèle à travers le sport et comment sont ces athlètes. Et moi, je les trouve assez exceptionnels et remarquables de tout ce que j'ai vu, que ce soit les athlètes français. Alors, je comprends leur discours et on leur pose des questions. Donc, on va un peu plus au fond des choses que les athlètes étrangers. Mais il y a plein de belles histoires, des parcours formidables qui sont des exemples. Et pour
alors,
moi,
justement,
c'est une belle leçon.
Guillaume, voilà. On va pas faire de jaloux. Ouais. Mais un mot, allez, on va retenir un de ceux ou quelques deux noms qui vous ont bouleversé, impressionné. Dites-nous.
Il y en a plein. Je retiendrai peut-être Bruno Naprix et Timothée Adolphe qui ont remporté une médaille ensemble en athlétisme et de voir l'athlète non-voyant être accompagné par son guide. Tous les non-voyants et malvoyants sont accompagnés par des guides ou aussi dans la boccia parce que c'est des personnes qui sont lourdement handicapées qui peuvent pas pousser la balle avec leurs mains. Voilà, l'accompagnement de ces guides est extraordinaire et on voit dans leurs yeux le bonheur partagé d'être là, d'avoir réalisé une performance. Et tous ces encadrants aussi, la Fédération Française de Sport Adapté qui encadre les athlètes déficients intellectuels avec notamment Charles-Antoine Kouakou qui a été champion paralympique en 400 mètres. Moi, ça me touche beaucoup et ça c'est le second plan parce que le premier plan c'est la performance. Donc ce sont de vrais athlètes et on en oublie le handicap au bout d'un moment, même quand il est très flagrant en natation. Tous ces athlètes de la catégorie S1 qui sont les plus lourdement handicapés, ils sont pour la plupart quadriamputés, ils vont dans la piscine, ils se mettent à nu devant nous, ils ont pas peur, ils sont entraînés comme des malades, ils sont là et quel que soit le résultat, ils sont heureux d'être là, d'avoir réalisé une performance ou pas. Et moi, ce spectacle-là me touche énormément.
Michael Jérémiaz, vous écoute attentivement un petit mot, Michael, avant qu'on parle du bilan français.
Non, moi je suis ravi d'entendre ce que dit Guillaume et de son choix et de cette claque qu'il a prise. Si seulement il y avait autant de journalistes comme Guillaume qui avaient fait le déplacement à Tokyo à 3 ans des Jeux de Paris pour se rendre compte justement de ce que c'est les Jeux Paralympiques, pour se prendre cette claque-là, pour tomber amoureux d'un événement sportif avec des athlètes aussi inspirants les uns que les autres, mais pas parce que handicapés, parce que sportifs de niveau. Et oui, on a le droit aussi, après avoir été très performant, d'avoir des belles histoires à raconter. C'est ce qu'on aime aussi dans le sport. Il parle de Timothée Adolphe, champion du monde, champion d'Europe, qui est passé à côté de ses jeux à Rio et qui a été disqualifié aux 400 mètres, le poids incroyable, et là qui arrive à aller chercher cette médaille d'argent. Oui, le sport c'est ça, ce sont des émotions, et moi quand j'entends ça, j'ai juste envie de me dire, pourquoi il n'y en a pas plus des journalistes qui sont allés et qui ont fait le déplacement à Tokyo malgré les restrictions sanitaires. Il y en avait mille fois plus, bien sûr que non, pas mille fois plus, mais il y en avait beaucoup plus aux Jeux Olympiques. Si on veut organiser des Jeux de qualité en 2024, il faut qu'il y ait des centaines et des milliers de Guillaume Batin pour justement nous faire partager ses émotions, et voilà, et c'est ça qu'on veut dans le sport.
Guillaume.
Nous sommes dix journalistes français.
Vous imaginez ?
Alors France Télévisions représente le gros des troupes, mais en radio, presse écrite, il y a un peu de monde aussi de l'équipe, mais on est très très peu nombreux. Et je peux vous dire, Michael et Claire, que tous mes collègues des autres médias et moi, on partage à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire que si on vient ici, on est convaincu, quoi.
C'est ça l'enjeu, c'est pas les journalistes, parce que je pense qu'il y en a des Guillaume, il y en a de plus en plus, et tant mieux, qui sont séduits, qui se prennent cette claque-là et qui ont envie de le raconter, de le partager avec des auditeurs, avec des lecteurs, avec des téléspectateurs, mais c'est les rédacteurs chefs, c'est les patrons des sports, c'est les dirigeants de chaînes et des groupes médias qui à un moment doivent se dire, ok, on a compris, on y va, et on y va tous ensemble parce que on va vous faire kiffer, tout simplement.
Voilà, message reçu 5 sur 5 pour 2024. Le bilan, allez, maintenant, on en parle, Michael Jérémias, vous disiez, bon bilan. On est déjà à 10 médailles d'or. Guillaume, j'ai cru comprendre que vous étiez plus mitigé, vous, sur le bilan. C'est pas terminé, le compteur n'est pas encore arrêté, mais vous dites qu'il faut regarder aussi le classement des nations.
Bien sûr.
Bah ouais, parce que la quantité de médailles, c'est un indicateur. On est au-dessus de Rio, on est au-dessus de Londres, mais on est en dessous de Pékin, d'Athènes, de Sydney, d'Atlanta, de Barcelone. Quand on remonte comme ça l'histoire paralympique, on était 4e nation à Barcelone en 92 avec 106 médailles et 36 médailles d'or. Depuis, ça ne fait que chuter. Donc certes, les objectifs sont réalisés, mais peut-être que les objectifs, ils n'étaient pas assez ambitieux. Peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens humains, financiers pour encadrer et développer le parasport. Peut-être que ce chiffre monte depuis Rio parce qu'il y a Paris 2024 qui arrive. L'armée des champions a un système qui a été mis en place pour permettre aux athlètes de pas avoir le problématique financière en permanence. Elle fait son effet, mais moi j'ai peur. Après 2024, qu'est-ce que ça va devenir ? On va passer derrière l'Iran, qui est 13e nation, juste derrière nous. Voilà, j'ai envie d'être un peu plus ambitieux. Je suis très fier, on est très fier de ces belles médailles, 51 médailles. Les athlètes sont magnifiques, mais c'est pas assez.
Moi, je suis tout à fait d'accord. L'objectif d'une nation qui a été fixé donc à 35 médailles, on passe à 51, c'est très bien. Il faut satisfaire de toutes ces médailles, de toutes ces émotions. Après, il faut, de la même manière qu'on l'est avec d'autres athlètes et d'autres mouvements, il faut aussi être critique. Effectivement, une nation comme la France, avec les moyens que la France peut mettre dans les parasports, n'est pas du tout à la hauteur à l'heure actuelle. On n'est même pas dans le top 10. Il y a des nations devant nous qui ont des moyens bien moindres que les nôtres. Et donc oui, il y a des enjeux financiers. Il faut investir. L'Angleterre, qui est la nation européenne, enfin ex-Europe, la plus qui est dans le top 3, qui est 3e mondial, depuis 2012, il ne cesse de progresser. C'est une augmentation là de 26 millions de livres juste pour la préparation paralympique des Jeux de Paris. Augmentation, pas leur budget total, c'est une augmentation de 40%. Donc aujourd'hui, oui, si on veut à Paris rentrer dans le top 10 et peut-être espérer le top 5, il va falloir faire beaucoup plus. Il n'y a pas que l'argent, mais c'est aussi un des enjeux.
Allez, en attendant, on va savourer quand même les médailles qui existent. Parmi les athlètes couronnés cette année, il y a notre porte-drapeau, Sandrine Martinet, judokate multimédaillée qui rentre de Tokyo avec l'argent en moins de 48 kilos. Sandrine Martinet, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes là ?
Oui.
Merci d'être avec nous. Peut-être d'abord un grand bravo parce que vous revenez, je le disais, avec une 5e médaille paralympique. Vous faites du judo, vous êtes malvoyante. Vous avez été médaillée à Athènes, à Pékin, à Londres, à Rio, à Tokyo. Quelle longévité ! Et tout ça, je le précise, en faisant des études, des enfants et en travaillant, puisque vous avez un métier. Respect.
Merci. Donc, je dirais juste qu'à Londres, malheureusement, je n'ai pas ramené de médaille, à part une médaille en plâtre, malheureusement.
Alors, je me suis trompée.
En demi-finale. Mais c'est vrai que quand on regarde ces 5 Jeux paralympiques auxquels j'ai participé, je suis très fière de ce parcours. Bien évidemment, je voulais ramener l'or et j'avais vraiment la possibilité de ramener l'or. Après, le combat s'est déroulé comme il s'est déroulé et des fois les choix sont pas forcément en notre faveur, mais en tout cas elle est belle cette médaille.
On vous avait senti déçu sur le coup, la déception est passée maintenant.
Oui, mais c'est toujours compliqué quand la médaille vous la gagnez en fait en demi-finale.
Une médaille.
Donc, du coup, elle est belle, bien évidemment, cette médaille, et j'en suis très heureuse, et j'ai retrouvé le sourire, bien évidemment, mais on se donne tellement, et on veut tellement aussi la partager, et ramener, le plus beau métal pour notre famille, pour tous les gens qui nous entourent, toute l'équipe qui a autour de nous, tous les gens qui sont là, sur le tapis, en dehors du tapis. Moi, je voulais leur ramener l'or. Il y a eu un petit souci d'arbitrage qui a fait que ça a modifié complètement le combat. Et derrière, je passe vraiment de très 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 peu. Je suis passée à côté. J'ai presque touché cette médaille et finalement je ramène l'argent. Alors bien évidemment, sur le moment, je suis effondrée, mais après je réalise
le moral est revenu.
L'exploit. Que c'est d'être revenu dans une autre catégorie après une grave blessure à la main, dans des conditions pas simples et on a tous bossé et on s'est tous mis dans un mode guerrier pour aller chercher une médaille et elle est belle, elle est magnifique et j'en suis très fière.
Michael Jérémias, un petit mot pour vous, Sandrine Martinet.
Bon, on s'est croisés tout à l'heure, j'ai encore mal à mon trapèze, je te remercie.
On précise quand même où vous...
De rien, avec plaisir.
On précise où vous vous êtes croisés quand même, parce que...
On s'est croisés au Trocadéro. Oui, il y a le live Tokyo au Trocadéro, où tous les athlètes médaillés reviennent chaque jour depuis hier et jusqu'à dimanche. Et donc, on peut venir les voir, les célébrer. Il y aura des grandes animations demain et dimanche, évidemment, le handover dimanche, où on va recevoir le drapeau paralympique depuis Tokyo. Et puis demain, avec la visite du président de la République, donc pour honorer justement nos athlètes et essayer plein de sport, de parasport qui seront en libre accès pour le grand public. Non, Sandrine, juste pour petit commentaire. Oui, on l'a vu le match. On avait la rage avec toi et en même temps, la médaille d'or, tu l'as gagnée. Les médailles, tu les as rapportées. Tu as été une formidable porte-drapeau. On va être beaucoup à te tanner pour que tu reviennes à Paris 2024, même si tu dis à tout le monde pour l'instant que c'est pas en projet. Mais tu vois, je pense que depuis 4 jours, tout le monde.
Alors justement, on lui pose la question, Sandrine Martinet. Oui ou non, 2024?
Alors pour l'instant du coup je ne dis plus rien. Je savourais le moment.
On vous perd par moment. Oula, la liaison là, on a un petit souci, Sandrine Martinet. On va peut-être vous saluer. Allô ? Oui, on avait un petit souci. On va vous saluer et puis vous dire de manière toute ferme et définitive à 2024. Voilà, on a pris la décision, nous.
T'as intérêt, Sandrine, on t'attend.
Voilà, c'est fait. Merci mille fois, Sandrine Martinet, de nous avoir consacré ces quelques minutes. Je voudrais que maintenant on s'arrête sur ces jeux qui profitent à tous. On a entendu un petit extrait dans les titres tout à l'heure. On va voir que les performances sportives et techniques réalisé par le parasport profite aux personnes handicapées en général. C'est un exemple avec des entreprises lyonnaises et iséroises qui, grâce à l'athlète Manon Genest, présente à Tokyo, ont pu mettre au point des prothèses ultra performantes. C'est un reportage de Simon Cardona.
Le problème avec Manon Genest, c'est qu'elle casse le matériel. Pendant des mois de tests sur piste, elle a ramené à son orthoprothésiste, Aymeric Bortot, des prototypes cassés, pas assez résistant pour le saut en longueur.
Donc elle en a cassé un bon paquet quand même avant qu'on essaie de changer de principe et de forme d'attelle. Et après, dès qu'elle a eu cette attelle justement qui vient chausser à l'extérieur de la chaussure et qui ressemble aux lames de course, elle n'a plus jamais cassé ses attelles.
Un design unique et une avancée technologique qui va permettre, comme à chaque fois, d'améliorer les prothèses dédiées au grand public, explique Pierre Potti, responsable de l'agence lyonnaise Chablos Orthopédie.
Les sportifs nous demandent de réaliser des appareils beaucoup plus optimisés optimisées pour lesquelles on doit développer de nouvelles techniques. Et le développement de ces nouvelles techniques nous permettent par la suite de réaliser des appareils plus performants pour le commun des mortels.
C'est le cas de Jean-Michel, un sexagénaire sportif, polo de rugby sur les épaules, qui attend patiemment que son orthoprothésiste lui ramène sa jambe droite, une prothèse en carbone qu'il porte depuis le début de l'année.
Pendant que j'étais en rééducation, je voyais le prothésiste et les kinés qui ont jugé que malgré mon âge avancé, j'étais encore un peu sportif et dynamique.
Sa prothèse sportive est noire avec une sorte de ressort. Elle ne ressemble pas à une jambe normale, mais avec ça...
Je fais de la cueillette de champignons, je vais dans les bois, je vais à la chasse aussi, je vais à la pêche, je suis un pêcheur à la mouche.
Une prothèse plus légère, plus confortable, plus dynamique, moins esthétique en revanche.
Quand vous baladez avec ça, ça dépasse de votre pantalon, tout le monde vous regarde. J'étais pas très chaud pour le faire, là. Et puis finalement, quand j'ai essayé, je me suis aperçu que c'était plus confortable.
Aujourd'hui, l'agence lyonnaise de Pierre Proti se concentre notamment sur l'impression 3D.
Ça nous permet de réaliser des appareils atypiques avec des formes bien particulières qu'on ne pouvait pas faire avant de manière manuelle.
Avec peut-être une nouvelle révolution technologique à la clé et pourquoi pas une prothèse de compétition pour Jean-Paul si la pêche à la mouche fait son entrée aux Jeux paralympiques de Paris 2024.
Bon, je pense que ça, ce n'est pas encore tout à fait prévu au programme. Guillaume Batin, vous n'avez pas entendu parler de ça, non hein?
Non.
Non. En tout cas,
il y a des sports de démonstration régulièrement, mais pas celui-là.
Voilà. Juste un petit mot pour terminer cette séquence sur les Jeux 2024. Michael Jeremias, un seul logo pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. On va essayer d'aller vers une inclusion.
On a révélé un logo unique, une équipe de France unie. On l'a vu, ça a eu un gros impact, notamment sur la communication, sur les réseaux sociaux. Le fait que tous les réseaux communiquent de la même manière sur les performances olympiques il y a quelques semaines et sur les performances paralympiques. Aujourd'hui, il y a un vrai rapprochement, une vraie volonté, en tout cas dans le monde du sport. Après, les enjeux politiques, la place des personnes handicapées dans la société, c'est une autre histoire. Mais Paris 24 va devoir servir à ça pour les Jeux paralympiques, c'est de permettre une plus juste place des personnes handicapées dans la société.
Guillaume Batin, je vous remercie. Vous vouliez peut-être ajouter un tout dernier mot ?
Peut-être aussi qu'il faudrait arrêter d'éteindre la flamme entre les deux, qu'il n'y ait pas de cérémonie d'ouverture, de fermeture, de réouverture, de refermeture, qu'il y ait une au début, une à la fin, et que ce soit aussi une seule et même famille. Et si on veut aller au bout des choses, il y a peut-être 2-3 trucs en termes de logistique et d'événementiel à changer de la part du comité paralympique, en cohérence aussi avec le comité olympique, parce que c'est deux comités différents. Voilà, c'est des petites choses aussi. Moi, j'ai été choqué de voir cette flamme s'arrêter à la fin des JO et que on commençait déjà à parler de Paris. Non, le Japon, le Tokyo n'était pas terminé à ce moment-là. Voilà, ça c'était peut-être des choses en termes d'image et de marketing à changer, quoi.
Merci mille fois Guillaume Batin d'être resté éveillé aussi tard pour les auditeurs de France Inter. Michael Jeremias, on va poursuivre la réflexion sur tous ces sujets dans un instant. Mais d'abord, l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin. À la une cette semaine, le Covid toujours, la présidentielle déjà, mais d'abord la rentrée.
C'est la rentrée. Je suis assez contente parce que c'est cool d'avoir des nouvelles affaires de classe. On va retrouver tous les copains et des nouvelles maîtresses.
Deuxième rentrée des classes sous Covid avec désormais une partie des ados vaccinés.
Beaucoup de mes copains étaient vaccinés déjà, du coup moi je voulais être vaccinée parce que sinon je suis un peu à la ramasse.
Près de 50 millions de Français vaccinés en tout, Jean Castex s'en félicite.
On est un des pays du monde qui désormais vaccinons le plus. Pas tout à fait surprenant qu'on soit sur la bonne voie pour retrouver une vie normale.
Encore quelques trous dans la raquette en matière de couverture vaccinale, y compris chez les plus vulnérables, qu'il faut prendre le temps de convaincre.
Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes d'accord pour qu'on vous vaccine ?
On viendra pas me dire « Eh, dis donc, papy, pourquoi tu t'es pas fait vacciner ?»
Convaincre et contraindre, la vaccination est désormais obligatoire pour certaines professions au contact du public.
On l'a fait malgré nous, on s'est retrouvé obligé de le faire, sinon on s'est retrouvé sans boulot et sans revenu, il faut bien gagner notre vie.
On a déjà des retours de salariés à qui on dit « si tu te fais pas vacciner, c'est dehors ».
Au rayon des sujets qui fâchent la CGT et les autres syndicats, la réforme des retraites.
Il faut réformer notre système de retraite.
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Et donc la question pour nous n'est pas de savoir s'il faut faire une réforme, mais quand il faut la faire.
À 8 mois de la présidentielle, pas question d'en discuter, dit Laurent Berger de la CFDT.
On va pas se mettre à discuter avec un gouvernement pour nourrir le programme d'un candidat.
Emmanuel Macron déjà candidat en campagne avec une étape de 3 jours à Marseille cette semaine.
Oh là là, monsieur Macron, j'ai rêvé de vous et vous êtes là.
Le président est là et il parle trafic de drogue au sens large, très large.
Les consommateurs aujourd'hui de drogue sont des complices.
Et il promet des moyens.
À peu près 100 policiers sont arrivés d'ores et déjà.
Et on va continuer à vous donner les moyens.
Tout le monde comprend qu'il est en campagne électorale. On est tous priés de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Bon, moi, je vais quand même dire.
Jean-Luc Mélenchon en campagne depuis un moment. À droite, Michel Barnier, candidat à la candidature.
Les Français veulent un nouveau président.
L'ancien négociateur du Brexit passe à l'offensive.
Je pense qu'ils veulent un président qui ne dise pas que des gens ne sont rien. Un président qui sache vraiment ce qu'est une cordée.
Reste à savoir comment départager les candidats LR. Cette semaine, ils sont deux à avoir renoncé. Laurent Wauquiez.
Je considère aujourd'hui en conscience que ce moment pour moi n'est pas venu.
Et Bruno Retailleau.
C'est parce que j'ai voulu lancer un appel à l'union.
À la fin, il faudra un candidat unique de la droite et du centre.
Valérie Pécresse, elle est donc toujours là. Alors, primaire ou pas primaire? Certains militants LR ont leur idée sur la question.
Pas de primaire.
Il faut absolument que chacun fasse un effort pour qu'il en reste plus qu'un à la fin. C'est comme Koh-Lanta.
Chacun sur leur poteau, regardez. Les trois poteaux.
Au PS, c'est plutôt poker menteur.
Merci. Merci, Blois.
Anne Hidalgo, candidate sans le dire, mais pour Martine Aubry, c'est comme si c'était fait.
Je pense qu'Anne a fait déjà le plein et maintenant, il faut la laisser.
Le match est plié au PS, en tout cas.
Oui, bien sûr.
Enfin,
si elle se présente.
Hormis ce détail, il faudra ensuite convaincre, notamment ceux qui désapprouvent les limitations de vitesse à Paris, pas plus de 30 km/h dans l'ensemble.
Là, je pense acheter une charrette avec des bœufs. Ça ne dépassera pas les 30, je pense. Ça sert à rien d'avoir une voiture à 30 km/h.
Et encore merci à Anne-Cécile Perrin, une semaine en France, toujours en compagnie de l'ex-champion de tennis, fauteuil Michael Jérémiaz, membre du comité d'organisation des Jeux Paralympiques de Paris 2024. En commentaire, je vous voyais un peu effondré sur pas mal d'infos. Hein.
Bah, non, mais la campagne présidentielle, à mon avis, va pas être très très jolie. Quoi. Vraiment, ça va être une campagne qui ces 30 dernières années va pas faire à mon avis honneur à la politique française. On entend des choses qui sont assez terrifiantes et voilà, après je serai là uniquement en observateur comme des millions de Français, mais ouais, c'est pas quelque chose que j'attends avec impatience.
Et pourtant la politique, c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut même dire qui vous titille, parce que allez, on rappelle quand même ce que vous avez fait en 2017. Vous aviez dans un de vos tweets, vous aviez laissé supposer que vous vouliez devenir ministre des sports. C'était quoi, un ballon d'essai? Vous dites pas non pour l'avenir, c'est ça?
Non, mais en fait, alors c'est parti d'un délire, mais en fait, en me disant pourquoi pas, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui qu'un ancien champion paralympique, comme on a déjà eu des champions olympiques, ministre des sports, bah qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas le devenir? La compétence, elle vient pas sur votre capacité à mettre un pied devant l'autre, bien évidemment que non. Oui, je suis issu d'une famille où depuis tout jeune, on parle politique, on discute politique, on regarde les élections et quelles qu'elles soient en famille, et voilà. Et donc
une famille plutôt de gauche, hein?
Oui, une famille plutôt de gauche, oui.
C'est ce que vous racontez dans votre livre.
Oui, avec le Nouvel Obs,
c'est un sport de combat.
Hein. oui, effectivement. Et voilà. Et puis j'ai eu des expériences politiques en région avec Jean-Paul Huchon lors des régionales. Et puis voilà. Et puis des rencontres aussi. Mais aujourd'hui c'est pas évident d'y aller. C'est-à-dire qu'y aller c'est un vrai sacrifice. Il faut aussi leur reconnaître ça, ceux qui vont, même si c'est une drogue pour un certain nombre d'entre eux. Et voilà. Aujourd'hui j'ai décidé de vivre en Angleterre en famille avec ma femme anglaise. Donc c'est pas du tout d'actualité. Mais oui, à un moment, si on a envie de changer le monde, on sait que la politique c'est un des bons outils. Donc peut-être un jour.
Et notamment si on a envie de changer le quotidien des personnes handicapées, parce qu'il y a du travail dans ce domaine, que ce soit pour l'accessibilité, que ce soit pour l'accès, ne serait-ce qu'à l'enseignement. Cette semaine, Michael Jérémiaz, c'était la rentrée scolaire. Il y a des enfants en situation de handicap. Le gouvernement, lui, se félicite d'une meilleure prise en charge. Mais l'UNAPEI, qui est la principale association qui regroupe les familles concernées, estime que 12 000 enfants rencontrent toujours des difficultés dans leur prise en charge, faute d'accompagnants en nombre suffisant. On écoute Sonia Aéinou de l'UNAPEI. Elle est avec Anne Orenstein.
La plupart du temps, ce sont les problématiques sur le temps de scolarisation. Vous avez des enfants qui sont scolarisés parfois 4 heures par semaine, donc le reste du temps, ils ne sont pas accueillis à l'école, et ça a un impact très important sur la vie familiale et sur les apprentissages de leur enfant. Le droit à l'éducation, c'est l'ouverture sur l'avenir pour les enfants, pour leur sociabilisation, pour parfois certains acquérir un métier, avoir une vie professionnelle, avoir une vie familiale. C'est vraiment le début de la vie de chaque enfant, quel qu'il soit et quels que soient ses besoins. C'est un droit fondamental.
C'est ce que vous dites aussi, Michael Jérémiaz. L'école, oui, c'est la priorité numéro un.
Oui, moi, le constat que je fais, autant que je m'en souvienne, depuis Jacques Chirac, ça a été toujours une priorité ou priorité de mandat ou de quinquennat ou de septennat, la question du handicap.
Donc, et après, il y a la réalité.
La réalité, et c'est ce que décrit la Lune API, 12 000. Alors, c'est peut-être moins que l'année dernière et peut-être moins encore que l'année d'avant, donc ça va sûrement dans le bon sens. Mais là, on parle de 12 000 enfants, on parle de 12 000 familles qui n'ont pas accès à l'éducation, qui est un droit fondamental. Aujourd'hui, on fait ce qu'on peut. Et le gouvernement actuel fait, il prend sa part comme les précédents, et je pense est profondément convaincu de l'importance aujourd'hui de donner une place plus juste et une citoyenneté pleine et entière aux personnes handicapées. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que je pense qu'on en attend peut-être un tout petit peu trop du législateur. Pour moi, aujourd'hui, si je vais dans un lieu public, j'attends pas forcément qu'il y ait des rampes partout, qu'il y ait des signalisations sonores partout. Moi, ce que j'attends, c'est d'avoir la personne qui va m'accueillir, qui va me regarder avec un grand sourire. Bienvenue monsieur, et si il y a besoin de m'aider, parce que peut-être il n'a pas eu les moyens de le rendre accessible, ou parce que la loi n'a pas été imposée suffisamment, et ben ce sourire là et un peu de bon sens rendra moi mon quotidien plus facile. Et c'est ce que j'ai vécu dans d'autres pays pour le coup, et pas qu'en Angleterre, mais aux États-Unis, en Australie, en Espagne.
Et vous dites que quand vous arrivez à Roissy en France, vous êtes toujours le dernier par exemple à sortir de l'avion et à attendre votre fauteuil. Il y a un souci dans ce pays.
Alors ça, c'est pas propre à la France. Effectivement, on est les premiers embarqués, les derniers à sortir. Non, Roissy, alors ça c'est encore un autre sujet. Roissy, c'est peut-être un des pires aéroports en termes justement d'accueil des personnes handicapées, en tout cas dans les pays développés. Vous pouvez demander à tous les sportifs qui ont voyagé dans le monde entier, mais ça c'est encore un sujet plus technique. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que c'est l'éducation. Si vous voulez que plus jamais on se pose la question du tiens, est-ce que je pourrais travailler ou recruter une personne handicapée, tiens, est-ce que moi architecte j'ai bien pensé à quand je construis cet immeuble qu'il y ait bien des logements accessibles, tiens, est-ce que moi j'ai pensé pour ce musée ou pour ce théâtre ou pour ce cinéma, que pour tout type de handicap, attention, pas que les gens en fauteuil roulant, pour tout type de handicap, chaque être humain puisse prendre sa place. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est pas le cas. On est discriminé pour l'accès à la santé, au logement, à l'emploi, à la culture, au sport, à la sexualité. Ce sont des sujets. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est que la société dans son ensemble en prenne conscience. Le handicap, c'est l'affaire de tous. L'accessibilité, c'est pas l'affaire que de Michel Jamez en fauteuil roulant. C'est l'affaire de papa et de maman qui ont des enfants.
15% de la population mondiale.
Alors déjà, 15% de la population mondiale, ça, c'est-à-dire 15% de personnes handicapées dans le monde, mais aussi toutes les personnes qui ont des soucis de mobilité, les personnes âgées, les personnes qui travaillent et qui font la manutention, des touristes, des papas et des mamans qui transportent des poussettes et donc des enfants dans leurs poussettes. C'est un problème universel. Tant qu'on l'aura pas intégré, on continuera à saupoudrer un petit peu à droite à gauche. On essaiera de trouver des solutions un petit peu là, un peu à telle rentrée. Et la réalité, c'est qu'on continuera à être une des minorités les plus discriminées et à ne pas avoir les mêmes droits, alors qu'on vient en France quand même en 2021.
Dans un instant, Michel Jérémiaz, on va parler de vous, de votre histoire qui explique votre hargne aujourd'hui. Le temps d'écouter un petit peu de musique.
Est-ce que tu sais que 8 jours ça fait 11 520 minutes à la seconde près? Est-ce que tu sais que les avions planent 10 fois leur hauteur, dit ton maître près? Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, leur amour, là, ici et tout autour? Est-ce que tu sais que quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à un millimètre près? Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais. Je sais pas si tu sais, est-ce que tu sais que de nos yeux coulent des larmes, des fleurs et des fleurs? Je peux pas te dire à la rivière près. Est-ce que tu sais que nous des doigts poussent des armes, des tonnes et des tonnes? Je peux pas te dire au drame près. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais. parce que tu sais que tout s'éparpille ici. Tout le monde ne regarde personne et personne ne voit tout le monde. Je sais pas si tu sais. Je sais pas si tu sais. Je sais pas.
Est-ce que tu sais, Gaëtan Roussel, choix musical de Djoubaka.
France Inter. Une semaine en France.
Toujours en compagnie de Mickaël Germias, champion de tennis fauteuil. À ce stade de l'émission, donc je le disais, Mickaël Germias, on revient sur le parcours de l'invité, sur son histoire. Vous avez 40 ans, bientôt 41, je crois.
Bientôt 40.
40,
le mois prochain.
J'ai mal compté tout ça. Vous êtes né, ben oui, vous êtes né en 81.
C'est ça. Hein,
je vais trop vite. Vous êtes né, vous avez grandi à Paris, au sein d'une tribu très soudée. Chez les Germias, on est très famille. Maman prof d'espagnol, papa médecin. Cardiologue, deux frères, deux complices, Jonathan l'aîné, Benjamin le cadet, liés comme les doigts de la main. Vous avez fait les 400 coups dans les rues du 12e arrondissement. Vous aimez le sport, la fête, les filles. Vous êtes bagarreur aussi. J'ai vu que vous avez fini dans un commissariat une fois.
Bagarre avec mes frères, pas bagarreur avec les autres, mais surtout bagarre avec mes frères.
Petit déjà, très sportif. Premier trophée de tennis décroché à 7 ans. Vous aimez les sports extrêmes, la vitesse. Vous êtes un peu casse-cou, faut le dire. Et puis en février 2000, ben, force d'aller au bout du bout, au-delà de la performance, il y a un accident à Voriaz. Vous avez 18 ans, vacances en famille, concours de saut à ski avec vos frères et des amis. Et puis vous chutez. Hein, et donc, vous, grave blessure, paralysée du nombril jusqu'au pied, on peut dire ça?
Au moment de l'accident, oui, une compression de la moelle épinière. Alors j'ai récupéré après, heureusement, j'ai eu de la chance. Mais à ce moment-là, oui, paralysée du ventre jusqu'au pied.
Vous avez passé des mois en centre de rééducation. Le centre s'est couvert en Seine-et-Marne. On a l'impression de le connaître, ce centre, parce que c'est Grand Corps Malade et il a tourné le film Patient. Hein.
Je suis arrivé 3 ans après lui. On a eu le même kiné, François Chevet, qui nous a présenté d'ailleurs tous les deux. Et oui, on connaît un peu ce centre qui, moi, m'a changé la vie. Voilà, m'a changé vraiment la vie et m'a aidé à rebondir.
C'est pas forcément marrant, un centre de rééducation, mais quand il y a d'autres jeunes qui sont comme vous, ben on fait des courses de fauteuil, par exemple, ça. C'est déjà ça.
C'est déjà ça. Et d'ailleurs, pour le petit clin d'œil, il y a eu une médaille d'argent hier en handbike, donc en cyclisme, par Riyad Tarsim en équipe. Et j'étais avec lui à Coubert en 2000. On était tous les deux ensemble. Lui m'a vu devenir champion de tennis. Lui, il continuait sa vie, faisait un peu de sport. Et puis, il s'est mis handbike. Il a eu une médaille hier. Donc, c'était assez émouvant de le voir gagner cette médaille alors qu'on a eu des moments de galère ensemble il y a 20 ans.
Effectivement. Le centre de rééducation, c'est aussi apprendre la dépendance. Hein. Vous l'avez écrit dans votre livre. Mon corps ne m'appartient plus. Il est devenu un édifice public. Vous aviez compris que vous aviez perdu, alors vous dites pas exactement l'usage de vos jambes, parce que vous pouvez tout de même...
Je suis paraplégique, donc j'ai une lésion au niveau de la moelle épinière, mais en fait je suis paraplégique incomplet, alors ça rentrait dans les détails, et donc j'ai récupéré de la motricité, de la sensibilité, et j'ai la chance, que c'est une vraie chance, de quand même encore pouvoir me mettre debout et de monter quelques marches quand il y a quelques obstacles.
Dans votre livre, Mickaël Germias, vous racontez que plutôt que les jambes, c'est un autre membre qui vous inquiète le plus à l'époque, pas forcément celui auquel on pense d'emblée. Je vis, c'est ce que vous écrivez, dans l'espoir d'une érection, et puis un beau jour, sous les draps, la tour Eiffel se dresse fièrement.
Très humblement.
Soulagement. C'est vrai que vous êtes un grand séducteur devant l'éternel?
Je faisais 18 ans et en fait à 18 ans je me rends compte très rapidement que l'obsession qu'on a à cet âge-là, c'est pas de mettre un pied devant l'autre ou de courir vite. Et moi, ça fait quelques années que j'ai découvert, que je découvre ma sexualité, que j'ai mes premières relations intimes avec des femmes et effectivement je suis paralysé pendant 3 semaines du nombril jusqu'aux orteils. Et oui, un matin, cette fameuse tour Eiffel, alors après c'est mon histoire, je raconte ce que je veux, mais voilà, et c'est le début en fait, c'est pour moi le début de la reconstruction parce que c'est là où je vais pouvoir à nouveau revivre comme un jeune adulte de mon âge.
Et vous dites, mon fauteuil devient une arme de séduction massive.
Oui, j'ai sorti très rapidement en fait. Je suis ressorti très rapidement avec mes frères. Alors au début, j'allais en jogging, basket, puis après, je me suis dit, c'est pas parce que t'es en fauteuil qu'il faut que tu fasses pas attention à toi. Et en fait, j'ai eu une obsession de vouloir prouver à la terre entière que je pouvais plaire, que je pouvais séduire, que je pouvais donner du plaisir, prendre du plaisir. Et oui, ça m'a embarqué dans des soirées, dans des années un peu folles, ouais, pendant pas mal d'années.
Et puis il y a le sport qui a tout réparé, qui vous a tout apporté. C'est ce que vous dites. Il a réparé les blessures, y compris celles de vos proches, parce qu'évidemment, vous vous sentiez coupable. coupable de tout ce qui est arrivé?
Je me sentais pas coupable. Moi, j'ai à 18 ans. Vous êtes pas encore complètement terminé, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, j'étais casse-cou. Je fais un saut. Évidemment, les conséquences sont pas que pour moi. C'est aussi pour les aimants. Moi, je les appelle les aimants. Mes parents. Ça a été très, très dur pour mes parents et pour mes frères et pour toutes les personnes qui m'aimaient. Et le sport était un formidable outil, moi, pour me reconstruire. Et le sport de haut niveau, la compétition, ça a été pour mes parents, notamment pour mon père, qui est mon plus grand fan, qui me tanne encore aujourd'hui pour continuer la compétition. Ça leur a permis aussi à un moment d'accepter plus facilement parce que c'est une blessure à vie pour une famille, pas tant pour moi, finalement, au sein de ma famille nucléaire, avec mes parents et mes frères, je pense que je suis celui qui le vit le mieux et qui l'a le plus accepté. Et je suis papa maintenant, et donc je sais, je peux qu'imaginer la douleur que mes parents ont pu ressentir, mais le sport, effectivement, nous a fait vivre des aventures folles, mais plus globalement, l'amour qu'on a les uns pour les autres, se fait que tout ça est quand même derrière nous, même si de temps en temps, ma mère me rappelle à mes petits mollets de coq et qu'elle préférait, tel qu'elle m'a fait avant que je fasse le con à skier.
Alors, vous faites mille choses, Michael Jérémiaz. Vous avez monté une société de conseil pour Allegro Consult, c'est oui, ça, pour les entreprises que vous conseillez en matière de handicap.
Politique handicap, ouais.
Vous avez une association comme les autres.
Oui.
Vous avez lancé un tournoi de tennis. C'est vous aussi ça,
le French Riviera Open, qui est aujourd'hui le plus grand tournoi international de tennis en fauteuil.
Là, vous préparez un documentaire sur l'histoire des Jeux paralympiques. Si
non,
j'ai bien
en
compris.
Fait, sur comment le sport a changé la vie des personnes handicapées dans le monde depuis 150 ans. Donc, avec Philippe Fontana, le réalisateur, on s'est lancé là-dedans, et donc on fait des rencontres extraordinaires des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire et qui ont fait que des gens comme moi, pas dans le sport de niveau, mais ont pu tout simplement faire du sport et se reconstruire grâce au sport et avoir une vie sociale épanouie.
Ça a commencé où cette histoire? Ça a commencé à Londres, en Angleterre en tout cas, le sport.
Alors les Jeux paralympiques, le berceau des Jeux paralympiques, on dit que c'est en 1948, quand le professeur Gutmann s'occupe de blessés de guerre et décide de leur faire faire du sport, en se rendant compte qu'ils allaient vivre plus longtemps et qu'ils allaient créer du lien social et s'épanouir. Les premiers Jeux de paralympiques, c'est Rome en 1960, mais il y a eu les Jeux pour les Soirs en 1924, et puis il faut savoir qu'il y a 150 ans, on était des bêtes de foire et des abominations divines, et on raconte aussi ce parcours-là, et pas qu'en France, comment un jour on est devenu et on est en train de devenir peut-être des citoyens à part entière.
Ce documentaire, on va le voir quand ?
Printemps 2022 sur Canal+, voilà, qui est notre diffuseur et qui nous a fait confiance, Didier Lahaye et Thierry Schellmann, dès la première seconde quand on est venu leur présenter. Et donc, on tourne encore 37 jours de tournage.
Ah ben on ira voir ça. J'ai vu aussi que vous aviez envie de faire du cinéma.
C'est un peu tentant, mais
ouais. Vous aimez tout ce qui brille, hein. Vous avez un
peut-être.
Côté comme ça.
Ouais, hein. Il faut un moment, faut assumer. Non, mais une fois que moi j'ai créé ma société de production avec Philippe, les gros films. Puis à un moment, on a des projets, et puis à un moment, on se dit, pourquoi moi je pourrais pas jouer ce rôle-là? Pourquoi je pourrais pas apprendre? Donc oui, je pense qu'un jour, je sais pas si j'y arriverai ou si je serai très bon, mais j'essaierai d'être de l'autre côté de la caméra.
Merci beaucoup, Michael Jérémiaz. On vous retrouve au Trocadéro ce week-end.
Ce week-end pour accueillir
les
plus grands.
Vous allez encore mettre Emmanuel Macron sur un fauteuil, hein. Vous allez tenter, hein.
Je vais tenter demain, pas au tennis, mais peut-être au basket. Mais ne dites pas. C'est la surprise.
On est entre nous. Merci mille fois, Michael et Jérémy, d'être venu ce soir.